Chapitre 3. Le vieux principe gothique n'eût jamais pu, à lui seul, arrêter, détourner le jeune élan de la France. Nulle force n'y eût suffi. La seule chose qui put la fourvoyer, et qui le fit en effet, c'était une illusion, un faux et bâtard idéal par lequel on l'amusa, on la trompa, on détourna ses pensées. Chose dure de voir la France enfantée entre deux sorcières, la vieille noire du Moyen-Âge, confession, inquisition. Et l'autre, la jeune, l'anglaise, aux vaines et menteuses paroles, couvrant le sort d'une intérêt de fiction politique qu'elle ne croit pas elle-même. Ce n'était pas depuis un jour que celle-ci travaillait la France, employant à la tromper le génie même de la France. Trois hommes, éminemment français, furent, dans le cours de ce siècle, caressés, gagnés par cette rusée Angleterre, si fière d'attitude, si flatteuse et basse dès qu'elle y a intérêt. Elle enveloppa Voltaire par le roué Bolingbroke, par l'apparence des libertés religieuses, tout en écrasant l'Irlande. Elle enveloppa Mirabeau, d'abord fort éloigné d'elle, par ses anglo-genevois qui aidaient à sa paresse et souvent écrivaient pour lui. Elle le trouvait effrayé entre la monarchie défunte et la république imminente. Elle lui offrait son système bâtard comme une planche dans le naufrage. La séduction la plus funeste fut celle de Montesquieu. Il serait long d'expliquer ici comment ce brillant esprit, si prenable par la vanité, fut suivi, saisi, accaparé par les Anglais, après le succès des lettres persanes, comment la médiocrité rusée mystifia le génie. Le génie est, on le sait, trop souvent crédule, sympathique, admiratif, et, ce qui donne prise surtout, ordinairement systématique. Montrez-lui une lueur qui flotte un peu ses systèmes, il suivra mieux qu'un enfant. Au reste, on ne trompe ainsi que ceux qui sont trompés d'avance, ceux qui ont en eux, au cœur même, le germe d'erreur. Je dis au cœur parce que l'erreur vient presque toujours d'un côté où la moralité faiblit. Oui, il faut le dire. Si ce beau génie, noble et doux, élevé, éminemment humain, a pourtant exercé une funeste influence sur la moralité politique de l'Europe, c'est que, tout grand qu'il était, il subit un sentiment qui n'est rien moins qu'élevé et qui entraîne tous les faibles de cœur. Le respect, l'admiration du succès. Partout où est le succès, le vulgaire voit la sagesse. L'Angleterre réussissait. Notre ingénieux Gascon se chargea d'expliquer la sagesse anglaise. Il chercha la cause de ses succès inouïs dans la perfection de son gouvernement, dans le profond mécanisme de sa constitution. Son ignorance le servit. Ne connaissant ni l'histoire, ni le droit du pays dont il parlait, il fut bien plus à son aise pour placer là le système dont il amusait son esprit. Xénophon plaçait ses rêves chez les Perses, Platon dans l'Égypte, dans l'Atlantide. L'Angleterre devint l'Atlantide de Montesquieu. La grandeur de l'Angleterre tenait à trois choses qu'il semble avoir peu comprises. Je ne puis ici que les indiquer. Premièrement, l'auteur principal et créateur de cette grande puissance au XVIIe siècle fut la France même. Je veux dire, la bécillité de la France catholique, des confesseurs de Louis XIV qui le poussèrent contre son allié naturel, la Hollande, jetèrent ainsi la Hollande dans les bras de l'Angleterre et par là donnèrent à celle-ci la domination des mers. Deuxièmement, l'Angleterre, gardienne fidèle des lois barbares du Moyen-Âge, de l'inéquité féodale, droit d'aînesse, etc., devait de deux choses l'une, ou devenir juste, ou trouver un moyen d'éloigner les victimes de la justice. Elle a pris ce dernier parti. Elle a périodiquement jeté ses enfants à la mer. Ce cancer d'iniquité qui la ronge, elle n'a pu le supporter qu'au moyen de ses purgations périodiques. De là ce besoin incessant d'émigration, ces colonies de siècle en siècle. Troisièmement, après le moment sublime de l'Angleterre, la flotte invincible et Shakespeare, le moment où le génie anglais plana comme un grand aigle de mer, il est descendu, et de plus en plus, il a tendu aux applications. Il est devenu toujours plus pratique, minutieusement précis, spécial et spécificateur. La pesante aristocratie le refoulant sur lui-même, l'a fait ouvrier et artisan. Elle lui a créé ainsi, sans préjudice des colonies extérieures, comme une colonie intérieure, une Angleterre dans l'Angleterre, et celle-ci énorme, monstrueuse, qui peut un jour enfoncer l'île et la mettre au fond de l'eau. La grandeur anglaise, la richesse du moins et le développement industriel ont leur principale origine dans ce génie de précision, d'application et de spécification. L'Angleterre a toujours gagné en ce sens, mais en revanche, pour l'étendue et la profondeur, pour les facultés de haute généralisation, pour l'art et la philosophie, on ne peut dire certainement qu'elle ait gagné depuis Shakespeare. Quant à sa constitution, très compliquée, dont on a fait tant de bruit, elle peut cependant se réduire à un mot. Le premier pouvoir y est l'aristocratie, le second l'aristocratie, l'aristocratie le troisième. Cette aristocratie va se recrutant sans cesse de tout ce qui l'enrichit. Être riche pour être noble, c'est toute la pensée de l'Anglais. La propriété spécialement territoriale, féodale et la religion du pays. Les institutions anglaises sont presque toutes locales, spéciales, insulaires, impossibles à transporter. Jamais les Anglais n'avaient imaginé que personne eût la folie de sortir de leur île des lois qui lui sont tellement appropriées. Mais voici un Français qui se charge de prouver que ce gothique chaos d'usage, de précédents tassés qui souvent se contrarient, dont leurs plus savants praticiens ne peuvent pas se tirer, que ce chaos est l'ordre même, que c'est l'éternel modèle proposé au genre humain. Que dis-je ? À force d'esprit, il y voit, il reconnaît l'image du système céleste, l'équilibre, la gravitation, etc. Avant que votre Newton eût trouvé ce système du ciel, leur dit-il, il existait dans vos lois. Qu'est-ce que la loi ? Un rapport, et ce rapport suit les climats. L'heureux rapport de l'équilibre, la pondération des puissances, c'est la vraie base politique où s'appuie toute société. Quel étonnement c'eût été pour les grands jurisconsultes, les pontifes du droit stoïcien, d'entendre tous ces mots de physique, de mécanique, d'équilibre, poids, contrepoids, gravitation. Ah, ce n'est pas pour un tel droit matériel et matérialiste que Papinien fit au tyran la sublime réponse qui lui valut le martyre. Ce n'est pas pour un tel droit que notre grand Dumoulin brava le poignard et quatre fois fut prêt d'être assassiné. Les politiques aussi, les Barnevelt et les De Witt, quand ils chantaient dans les tortures « Justum et tenacem », ils n'imaginaient pas que le droit fût chose physique. Il croyait au droit de l'esprit. Il ne faut pas cependant reporter toute la faute de cet abaissement du droit à M. de Montesquieu. Le faux spiritualisme jésuitique avait, dès le XVIIe siècle, tourné les esprits des hommes vers la sphère où la liberté éclatait alors, vers les sciences de la matière transfigurées par Galilée. La politique, cédant à leur ascendant, avait peu à peu pris leur langue. Descartes y contribua par la popularité de ses ouvrages, même par ses romans de physique. Newton vint avec cet éclat, cette autorité immense, et Voltaire pour traducteur. L'équilibre, la gravitation, apparurent la loi universelle du monde et morale et physique. L'on oublia que le droit est en quelque sorte le contraire de la physique. Celle-ci balance les puissances, cherche l'équilibre des forces. Mais l'essence même du droit est de tenir même compte du fort et du faible, de mettre le petit, l'impuissant dans la balance, et de juger qu'il pèse tout autant que le puissant. C'est le jeu sublime du droit et par où il méprise la nature et met le ciel sous ses pieds. Arrière physique, arrière mécanique, c'est d'ici un monde sain. Restez à la porte, un monde absurde pour vous inintelligible, où l'on juge au mépris de toutes vos mathématiques que le petit égale ou surpasse le grand et que le faible est le fort. Laissez-moi donc vos prétentions de ramener la morale à la physique. Laissez la politique mécanique qui met le droit dans l'équilibre. Le droit c'est le droit, le bien c'est le bien. Il n'y faut autre définition. Tout cœur d'homme comprendra. Tel fut le point de départ de nos maîtres, les grands stoïciens qui assirent sur cette base la jurisprudence romaine. Tel aussi le résultat de la vraie philosophie, de Rousseau, de Kant, ces grands révolutionnaires, tel le credo originaire de notre révolution. Ce fameux droit d'équilibre, que faisait-il en pratique? Si l'équilibre existait réellement, comme Bentham et autres en ont très bien fait la remarque, il aboutirait simplement à l'immobilité complète. Il ne serait absolument autre que le maintien du statu quo. Maintien de l'ordre ? Pas toujours. Il est possible que le statu quo soit l'immobilisation du désordre et le rende permanent. Ce statu quo social, entouré en Angleterre de belles garanties qui relevaient du reste la dignité de l'homme, ne faisait que consacrer pour chacun son droit actuel. À ceci le droit d'avoir tout, à cela le droit d'avoir faim. Une chose remédiée dont nous avons parlé, l'usage de jeter une partie de la population à la mer. Le statu quo avait été vivement désiré en Europe après l'horreur sanglante des guerres de religion. Le monde, qui d'épuisement ne pouvait plus remuer, se laissa persuader que la balance des intérêts suffirait à l'ordre, abstraction faite du droit. Ainsi, rien ne bougerait plus. Les petits toujours petits, les forts toujours forts. Vain espoir. Toutes les fois qu'une idée nouvelle advenait, qu'une puissance apportait au monde une force morale, comme la France à l'aurore de Louis XIV, la France de Colbert et de Molière, l'équilibre se rompait. En temps ordinaire, il est vrai, la voracité de chacun était contenue par la voracité de tous. Mais au fond, nulle idée du droit. C'était comme une bande de loups qui sont en cercle et se regardent. S'il affaiblit, haro sur lui. Ainsi, à l'avènement de la jeune Marie-Thérèse, l'Autriche semble faible, orpheline. Donc suce à l'Autriche. Puis, c'est la petite Prusse. Malheur à la Prusse. On essaye de la dévorer. De temps à autre, on arrache un lopin de la Turquie. La Russie mord la Suède. L'Autriche absorberait la Bavière si l'on ne se jetait entre. Voilà le hideux aspect de ce cirque de bêtes sauvages. Cette fiction d'équilibre, de balance européenne, toujours attestée gravement dans le XVIIIe siècle, semble alors régir encore l'Europe. On la rappelle aux petits, c'est une moralité qui leur est appropriée, une sorte de catéchisme. Les grands aux deux extrémités grandissent pendant ce temps. Deux géants se font, l'Angleterre et la Russie. La Russie, puissance asiatique, a moins besoin d'hypocrisie. Elle pèse brutalement, cruellement sur la Pologne. Elle en arrache des membres, elle force ses voisins de prendre part à ce meurtre, d'emporter une dépouille. Elle ne leur permet pas de rester les mains nettes, comptant bien, au reste, leur reprendre la part qu'elle leur fait quand elle les prendra eux-mêmes. La Russie, une barbarie organisée, peut se passer d'une idée. On ne lui a pas encore à cette époque fabriqué le panslavisme. Mais l'Angleterre, le grand Tartuffe, doit faire semblant d'avoir une idée. Elle se présente hardiment, pour emprunter le mot absurde de Madame de Staël, comme le chevalier de la liberté du monde. Elle défendra cette liberté. Bien mieux, elle la réglera, l'assurera, la fondera. Facile est la recette, imiter sa constitution. Honnête, libérale Angleterre, elle n'a pas pris le Portugal, elle n'a pas conquis la Hollande, elle les a seulement annulés. Le Portugal, découragé, s'est peu à peu livré lui-même, endormi dans sa ruine. La Hollande était plus difficile, mais l'Angleterre peu à peu l'a prise par la maison d'Orange. C'est pour fonder cette maison qu'elle a sans cesse remué contre les vrais Hollandais la populace des villes, en grande partie étrangère, jusqu'à ce que le malheureux pays reprit, sous le nom de Stadtholder, un préfet anglais, pour détruire systématiquement sa marine et le trahir jour par jour. L'Angleterre agit d'autant mieux sur le continent qu'elle n'y fait point de conquête, sauf quelques points dominants, essentiels, comme Gibraltar, comme fut Calais si longtemps. Prenons bien garde à Cherbourg. L'idéal de l'Angleterre fut de tenir peu à peu toute la côte d'en face. Hollande et Portugal, Belgique, France, par quatre préfets anglais. Elle crut l'avoir atteint. Lorsque le duc d'Orléans, sa docile créature, plus subordonnée aux Anglais que les princes d'Orange ou de Brabance, leur livra notre politique, nos plus intimes secrets, tua pour eux le commerce français, tua avec eux la marine espagnole, alliée naturelle de la nôtre. La France évanouit alors comme après une horrible saignée laissée faire. On pouvait oser tout sur ce cadavre. Un commissaire anglais à Dunkerque, l'ambassadeur anglais à Paris, recevant les hommages du Premier ministre, dictant ses dépêches. C'était fini de la France et elle avait consenti à toutes ses indignités. Mais elle était comme absente d'elle-même. Qui n'a la volonté n'a rien. Les Anglais régnaient et avec cela ils n'obtenaient nul résultat. Ils travaillaient la haute société, les salons, se faisaient à moitié français, ridicules pour influer sur les Français. Tout cela se passait en haut, à la surface. Rien ne pénétrait en bas. Ils n'avaient pas alors la prise que leur ont donnée sur nous la banque et l'industrialisme. La France de ce temps-là se défendait par l'esprit et restait entière. Un matin, elle s'éveille et donne aux Anglais la leçon de Fontenoy. Étrange et bizarre insolence, vouloir dominer le pays qui, en ce temps même, sous son triste gouvernement, dominait, entraînait le monde par la puissance de l'esprit. Pour dominer, il faut un droit, et ce droit, c'est une idée. Qu'on me montre une idée anglaise. Une grande et féconde idée morale. L'Angleterre n'a jamais eu, n'aura jamais aucun grand moraliste, aucun grand jurisconsulte. La Grèce eut droit sur le monde, Rome eut droit, et la France eut droit. Chacune apporta une idée. Art, jurisprudence, fraternité sociale, voilà le titre, il me semble. Le monde en est resté respectueux, reconnaissant pour ses peuples. Mais l'industrie, mais le commerce, ce sont de grandes utilités, à coup sûr, et qui enrichissent la Rome. Pourquoi, cependant, remercieriez-vous le commerçant, l'industriel, de ce qu'il veut être riche? L'Angleterre fut enragée de voir sa rivale si obéissante sous la Régence, qui lui échappait de plus en plus. Elle se donna à quiconque haïrait le plus la France. C'est la grandeur des deux pites. La France offre un spectacle absolument contraire. Elle combat parfois l'Angleterre, elle ne la hait jamais. Si elle aide l'Amérique, c'est pour l'Amérique même, c'est pour la liberté du monde. Jamais les Anglais ne furent mieux vus en France qu'à cette époque. Jamais leurs romans, leurs Pamela, n'eurent plus de succès, leurs modes, leurs courses, etc. Le duc d'Orléans courait, buvait, se piquait d'être un parfait gentleman et de temps à autre allait faire sa cour de l'autre côté du détroit. Toute l'Angleterre prit plaisir à la Révolution de France. Elle crut qu'il en arriverait de deux choses l'une, infailliblement, ou que la France, épuisant ses forces contre elle-même, ne compterait plus en Europe, qu'elle ferait, c'est leur mot même, un grand vide, un blanc sur la carte, ou bien, que copiant fidèlement la Révolution anglaise, elle conserverait la royauté dans une branche cadette, d'après le principe anglais de 1688, le meilleur roi est celui qui a le plus mauvais titre. Elle fut étonnée, atterrée de voir la calme grandeur de notre Révolution qui, sans s'informer de toutes les vieilleries anglaises, écrivait pour le genre humain la Déclaration des droits. Vrai législateur du monde qui lui dénonçait la paix et, avec 3 millions d'hommes armés, déclarait renoncer à la guerre et aux conquêtes. Et elle en faisait par la force de la raison au sein de l'Angleterre même. Fox, le grand orateur anglais Price, leur économiste et le fondateur de leur crédit, Priestley, leur illustre chimiste, saluèrent de cœur la première révolution humaine et universelle qui voulait finir toute guerre, supprimer la haine en ce monde et, comme disait un des nôtres, sur un monceau d'armes brisées, faire embrasser les nations. L'Angleterre trouvait cela intolérable. Elle accueillit habilement tout ce que le vent du continent apportait d'accusation contre nous. Elle crut tout, adopta tout. Les témoins les plus intéressés lui parurent précieux, respectables, irrécusables. Ceux-là, c'étaient les vrais Français. Tout ce qu'il y avait d'émigrés, de transfuges, l'honnête Angleterre au jury, la main sur le cœur, affirma que c'était la France. Chose curieuse, la France, par la grande faute de Louis XIV, la guerre de Hollande, donna la mer à l'Angleterre. La France, par le génie de Montesquieu, fit aux Anglais leur fameuse théorie constitutionnelle qui leur donna autorité en ce monde. La France encore, au moment de la Révolution, leur donna toutes forgées les armes de la polémique par laquelle ils l'attaquèrent. Cette histoire est comme un duel de la France contre la France. Seule alors elle était en vie, seule elle était vraiment le monde et comme telle elle portait en soi ses contraires. C'est là sa funèbre grandeur de n'avoir pu trouver d'ennemis sérieux qu'elle-même. Nos transfuges ont été, un à un, inspirés, dictés aux Anglais leurs arguments contre nous. C'est Calonne, c'est Necker, c'est Dumouriez, les gens à qui la France a confié ses affaires, qui usent de cette connaissance, qui écrivent contre la France des livres profondément anglais. Ces trois n'ont pas cependant la grande responsabilité. Calonne était trop méprisé pour être cru, les deux autres trop haï. L'homme qui agit incontestablement avec plus d'efficacité contre la Révolution, qui nuisit le plus à la France, qui rassura le plus l'Angleterre sur la légitimité de sa haine, fut un Irlandais d'origine, Lally Tollendal. C'est de lui qu'un autre Irlandais, Burke, reçut le texte tout fait de lui qu'il partit, et portant la haine et l'insulte à la seconde puissance, donna le ton à l'Europe. Ces deux hommes parlèrent, tout le reste répéta. Qu'on ne dise pas que je leur donne une responsabilité exagérée, qu'avec leur brillante faconde sans idée, avec la légèreté de leur caractère, ils n'avaient pas en eux de quoi changer ainsi l'Europe. Je répondrai que de tels hommes n'en font que de meilleurs acteurs, parce qu'ils jouent au sérieux, parce que leur vie d'intérieur leur permet d'autant mieux d'adopter, de pousser vivement, comme leur, toutes les idées des autres. Nous avons vu dernièrement un homme tout semblable, O'Connell, tout aussi brillant et tout aussi vide, prononcer, au profit de l'Angleterre, au dommage de l'Irlande, le mot qui pouvait ôter à cette pauvre Irlande son futur salut peut-être, la sympathie de la France, réclamer pour les Irlandais le carnage de Waterloo. L'éloquent, le bon, le sensible, le pleureur Lally, qui n'écrivit qu'avec des larmes et vécut le mouchoir à la main, était entré dans la vie d'une manière fort romanesque. Il resta homme de roman. C'était un fils de l'amour que le malheureux général Lally faisait élever avec mystère sous le simple nom de Trophime. Il apprit dans un même jour le nom de son père, de sa mère, et que son père allait périr. Sa jeunesse, glorieusement consacrée à la réhabilitation d'un père, eut l'intérêt de tout le monde, la bénédiction de Voltaire mourant. Membre des États généraux, Lally contribua à rallier au tiers la minorité de la noblesse. Mais dès lors, il l'avoue, ce grand mouvement de la Révolution lui inspirait une sorte de terreur et de vertige. Dès son premier pas, elle s'écartait singulièrement du double idéal qu'il s'était fait. Ce pauvre Lally, le plus inconséquent à coup sûr des hommes sensibles, rêvait à la fois deux choses fort dissemblables, la constitution anglaise et le gouvernement paternel. Dans deux occasions très graves, il nuisit, voulant servir à son roi qu'il adorait. J'ai parlé du 23 juillet où son élégance étourdie gâta une occasion fort précieuse pour le roi de se rallier le peuple. En novembre, autre occasion, et Lally la gâte encore. Mirabeau voulait servir le roi et tendait au ministère. Lally, avec son tact habituel, prend ce moment pour lancer un livre contre Mirabeau. Il s'était alors retiré à Lausanne. La terrible scène d'octobre avait trop profondément blessé sa faible et vive imagination. Mounier menacé et réellement en péril, quitta en même temps l'Assemblée. Le départ de ces deux hommes nous fit un mal immense en Europe. Mounier y était considéré comme la raison, la Minerve de la Révolution. Il l'avait devancé en dauphiné et lui avait servi d'organe dans son acte le plus grave, le serment du jeu de paume. Et Lali, le bon, le sensible Lali, adapté de tous les cœurs, cher aux femmes, cher aux familles, pour la défense d'un père. Lali, l'orateur à la fois royaliste et populaire qui avait donné l'espoir d'achever la révolution par le roi. Le voilà qui dit au monde qu'elle est perdue sans retour, que la royauté est perdue et la liberté perdue. Le roi est captif de l'assemblée, l'assemblée du peuple. Il adopte ce français, le mot de l'ennemi de la France, le mot de Pitt. Les Français ont seulement traversé la liberté. Dérision sur la France. L'Angleterre est désormais le seul idéal du monde. La balance des trois pouvoirs, voilà toute la politique. Lali proclame ce dogme avec Lycurg et Blackstone. Fond ridicule. Belle forme éloquente, passionnée, langue excellente de la bonne tradition, abondance et plénitude à flot du cœur. Et tout cela pour accuser la patrie, la déshonorer s'il pouvait, tuer sa mère. Oui, le même homme qui consacrait une moitié de sa vie à réhabiliter son père, donne le reste à l'œuvre impie, parricide, de tuer sa mère, la France. Le mémoire adressé par Lali à ses commettants, janvier 90, offre le premier exemple de ces tableaux exagérés que depuis, l'étranger n'a cessé de faire des violences de la Révolution. Les pages écrites là-dessus par Lali sont copiées, pour les faits, pour les mots mêmes, par tous les écrivains qui suivent. Les soi-disant constitutionnels commencent dès lors contre la France la plus injuste des enquêtes, allant de province en province, demander aux seigneurs, aux prêtres « Qu'avez-vous souffert ?» Puis, sans examen, sans contrôle, sans production de pièces ni de témoins, ils écrivent, ils certifient. Le peuple, victime obligée et nécessaire après avoir souffert des siècles, dans son jour de réaction souffre encore. Ses prétendus amis enregistrent habilement tous ses méfaits, vrais ou faux. Ils reçoivent contre lui les témoins les plus suspects. Contre lui, ils croient tout. Lali marche le premier. Il est le maître du cœur. Par lui commence ce grand concert de pleureurs qui pleurent tous contre la France. Pleureurs du roi, de la noblesse, qui gardaient la pitié pour eux, qui n'accordaient rien aux millions d'hommes qui souffrirent, périrent aussi. Dites-nous donc quel rang, quel blason il faut avoir pour qu'on vous trouve sensible. Nous avions cru, nous autres, que pour mériter les larmes des hommes, être homme, c'était assez. Ainsi, l'on a mis en branle, contre le seul peuple qui voulait le bonheur du genre humain, ce grand mouvement de pitié. La pitié est devenue une machine de guerre, une machine meurtrière. Et le monde a été cruel à mesure qu'il était sensible. Lali et les autres pleureurs ont fomenté contre nous la croisade des peuples et des rois. Elle a jeté la France, acculée entre tous, dans la nécessité homicide de la terreur. Pitié exterminatrice, elle a coûté la vie à des millions d'hommes. Cette cataracte de larmes qu'ils eurent dans les yeux a fait couler dans la guerre des torrents de sang. Qu'on juge, avec quelle délectation intérieure, quel sourire de complaisance, l'Angleterre a appris des Français, des meilleurs, des plus sensibles, des vrais amis de la liberté, que la France était un pays indigne de la liberté, un peuple étourdi, violent, qui, par faiblesse de tête, tournait aisément au crime. Enfants brutaux, malfaisants, qui gâtent et brisent ce qu'ils touchent, ils briseraient le monde vraiment si la sage Angleterre n'était là pour les châtier. La partie n'était pas égale dans ce procès devant le monde, entre la Révolution et ses accusateurs anglo-français. Eux, ils montraient des désordres trop visibles, et la Révolution montrait ce qu'on ne voyait pas encore, la persévérante trahison de ses ennemis, l'entente cordiale intime des Tuileries, de l'émigration de l'étranger, l'accord des traîtres du dedans, du dehors. On niait, on jurait, on prenait le ciel à témoin. Soupçonnés ainsi, calomniés, ah, quelle injustice! Ces innocents qui protestaient sont venus en 1815 dire bien haut qu'ils étaient coupables, se vanter et tendre la main. Oui, nous pouvons aujourd'hui, sur leur témoignage même, affirmer avec sûreté. Les Necker, les Lali furent des simples, des niais, quand ils garantirent ce que le temps a si violemment démenti. Des niais, mais dans cette niaiserie, il y avait corruption. Ces têtes faibles et vaniteuses avaient été tournées par leur désappointement, corrompues par les caresses, les flatteries, la funeste amitié des ennemis de la France. La France révolutionnaire qu'on a crue si violente fut patiente en vérité. Partout dans Paris, rue Saint-Jacques, rue de la Harpe, on imprimait. On étalait les livres des traîtres, d'Acalonne par exemple, admirablement exécuté aux frais de la cour. Le livre furieux, immonde de Burke, aussi violent que ceux de Marat. Et si l'on songe au résultat, bien autrement homicide. Ce livre, si furieux, que l'auteur oublie à chaque page ce qu'il vient de dire dans l'autre, s'enferrant lui-même à l'aveugle dans ses propres raisonnements, me rappelle à tout moment la fin de Mirabeau-Tonneau, qui mourut de sa violence, se jetant les yeux fermés sur l'épée d'un officier qu'il forçait de mettre en garde. L'excès de la fureur, qui souffre d'un empouvoir irascé, jette à chaque instant l'auteur dans ses basses bouffonneries qui avilissent le bouffon. Nous n'avons pas été, nous autres Anglais, vidés et recousus, empaillés comme les oiseaux d'un musée, de paille ou chiffon, de sales rognures de papier qu'ils appellent les droits de l'homme. Et ailleurs, l'assemblée constituante se compose de procureurs de village. Il ne pouvait manquer de faire une constitution litigieuse qui donne nombre de bons coups à faire. J'ai cherché, avec une simplicité dont j'ai honte maintenant, s'il y avait quelques doctrines. Rien qu'injures et contradictions. Il dit dans la même page « Le gouvernement est une œuvre de sagesse humaine. » Et quelques lignes plus bas, « Il faut que l'homme soit bordé par quelque chose hors de l'homme. » Quel donc ? Un ange ? Un dieu ? Un pape ? Revenez donc alors au merveilleux gouvernement du Moyen-Âge, aux politiques de miracle. Le plus amusant dans Burke, c'est son éloge des moines. Il ne tarit pas là-dessus. Élève de Saint-Omer, converti pour arriver, il semble se rappeler, un peu tard, ses bons maîtres, les jésuites. La protestante d'Angleterre a le cœur attendri pour lui, par sa haine contre nous. La révolution a du bon, puisqu'elle rapproche et met d'accord de six anciens ennemis. Monsieur Pitt irait à la messe. Tous ensemble, Anglais et moines se mettent à l'unisson dès qu'il s'agit de dire pour la France des vêpres sanglantes et chantent au même lutrin. Pitt avoue le livre de Burke, il voulut créer une brèche éternelle entre les deux peuples, élargir, creuser le détroit. La haine des Anglais pour la France avait été jusque-là un sentiment instinctif, capricieux, variable. Elle fut dès lors l'objet d'une culture systématique qui réussit à merveille. Elle grandit, elle fleurit. Le fond était bien préparé. Sismondi, nullement défavorable aux Anglais et qui s'est marié chez eux, fait cette remarque très juste sur leur histoire au XVIIIe siècle. Ils étaient d'autant plus belliqueux qu'ils ne faisaient jamais la guerre. Ils ne la faisaient du moins ni par eux-mêmes ni chez eux. Ils se croyaient inattaquables. De là, une sécurité d'égoïsme qui leur endurcissait le cœur, les rendait violents, insolents, irritables pour tout ce qui résistait. Le châtiment de cette disposition haineuse fut le progrès de la haine. La triste facilité avec laquelle ils se laissèrent mener par leurs grands, leurs riches, à toutes les folies que la haine inspire. Les bonnes qualités de ce peuple, laborieux, sérieux, concentré, tournèrent tout en mal. Une vertu inconnue au continent et qui a, il faut le dire, servi souvent beaucoup leurs hommes, les Pitt, les Nelson et autres, la doggedness ainsi tournée, fut une sorte de rage mue, cette fureur sans cause du bulldog qui mord sans savoir ce qu'il mord et qui ne lâche jamais. Pour moi, ce triste spectacle ne m'inspire pas haine pour haine, non, plutôt pitié. Peuple frère, peuple qui fut celui de Newton et de Shakespeare, qui n'aurait pitié de vous voir tomber à cette crédulité basse, à cette lâche déférence pour les ennemis communs, les aristocrates, jusqu'à prendre au mot, recevoir avec respect, confiance, tout ce que le nobleman, le gentleman, le lord, vous a dit contre des gens dont la cause était la vôtre? Votre misérable prévention pour ceux qui vous foulent aux pieds, elle nous a fait bien du mal, vous, elle vous a perdu. Ah, vous ne saurez jamais ce que fut pour vous le cœur de la France. Lorsqu'en mai 90, un de nos députés, parlant de l'Angleterre, s'avisa de dire « Notre rival, notre ennemi », ce fut dans l'Assemblée un murmure universel. On faillit abandonner l'Espagne plutôt que de se montrer défiant pour nos amis les Anglais. Tout cela en 90, pendant que le ministère anglais et l'opposition réunis lançaient le livre de Burke. L'effet de cette pauvre déclamation fut immense sur les Anglais. Les clubs qui s'étaient formés à Londres pour soutenir les principes de notre révolution furent en grande partie dissous. Le libéral Lord Stanhope effaça son nom de leur livre, novembre 90. Des publications nombreuses, habilement dirigées, multipliées à l'infini, vendues à vil prix dans le peuple, le tournèrent si bien qu'au 14 juillet 1791, une réunion d'Anglais célébrant à Birmingham l'anniversaire de la Bastille, la populace furieuse alla saccager, briser, brûler les meubles, la maison de Priestley, son laboratoire de chimie. Il quitta ce pays ingrat et passa en Amérique. Voilà la fête qu'on faisait en Angleterre à l'ami de la France. Et voici la même année, celle qu'on faisait en France aux Anglais. En décembre 91, nos Jacobins, présidés alors par les Girondins Isnard et La Source, décidèrent que les trois drapeaux de la France, de l'Angleterre et des États-Unis seraient suspendus aux voûtes de leur salle. Et les bustes de Price et de Sidney placés à côté de ceux de Jean-Jacques, Mirabeau, Mably et Franklin. On donna la place d'honneur à un Anglais, député des clubs de Londres. Les félicitations les plus tendres lui furent adressées parmi les vœux de paix éternelle. Mais l'union eût semblé imparfaite si nos mères, nos femmes, les médiatrices du cœur, ne fussent venues marier les nations et leur mettre la main dans la main. Elles apportèrent un gage touchant, leur propre travail. Elles avaient elles-mêmes et leurs filles, tissus pour l'anglais, trois drapeaux, le bonnet de la liberté, la cocarde tricolore. Tout cela mis ensemble dans une arche d'alliance avec la Constitution, la nouvelle carte de France, des fruits de la terre de France, des épis de blé. Sainte confiance de nos pères. Crédule, aveugle, dira-t-on ? Non, ils ont dû le croire ainsi. Ils ont dû croire que le peuple anglais comprendrait l'intérêt des peuples. Ils n'ont pu deviner, et je les en félicite, que les Anglais, traînés par cette misérable chaîne de haine et d'orgueil, se laisseraient atteler par leur aristocratie à la machine industrielle pour gagner toujours, ce qui ne leur servirait à rien qu'à acheter des Allemands, des Russes, à mesure qu'on en tuait. Peuple d'orgueil, ne m'en croyez pas, mais croyez-vous en vous-même. Examinez, comparez, qu'étiez-vous et qu'êtes-vous devenu? Vous avez fait de grandes choses au-dedans et au-dehors, mais enfin quel résultat? Est-ce le bonheur du grand nombre? Osez donc répondre oui. Est-ce le progrès du petit nombre, l'élévation du génie, l'approfondissement de la pensée? J'en doute. Vous ne produisez rien comme théorie nouvelle. Peu d'ouvrages d'art, des articles, des traductions de mauvaises pièces françaises. Vous me semblez avoir choisi à l'envers de Salomon. Il prit la pensée, la sagesse, vous avez pris le monde. Mais le tenez-vous ? L'empire anglais, un grand mot. Mais qu'est-ce qu'un empire ? Une harmonie de nations. C'est une chose lentement, sagement, fortement fondée, sur les rapports nécessaires, fondés surtout, s'il doit durer, sur le bienfait des conquérants. Tel fut le grand empire romain qui a couvert le monde de ses monuments, qui a laissé partout aux nations des voies et des lois. Tels ne furent point les établissements des Vénitiens, des Portugais, des Hollandais. Ces glorieux petits peuples qui, de rien, firent des choses immenses, n'en ont pas moins été incapables de fonder. Vous avez, je le sais, ce qui n'y eurent pas, votre triplicité de force, agricole, industrielle et maritime. Voilà certes de fortes prises. Et d'où vient donc qu'avec elles vous preniez si faiblement? Nulle part, sauf aux États-Unis fondés à une autre époque sous l'influence religieuse, nulle part vous n'avez mordu dans la terre. Je vous vois partout à la surface du globe, mais enraciné, nullement. La raison, c'est que vous avez été partout, cueillant et suçant le suc de la terre, mais n'y mettant rien, nulle sympathie, nulle pensée. N'apportant aucune idée morale, vous n'avez planté nulle part. Vos Indes, par exemple, l'un des beaux empires qui a vu le soleil, qu'en avez-vous fait? Il a dépéri dans vos mains. Vous lui restez extérieur, vous lui êtes encore parasite qu'on en secourra demain. Vous l'avez trouvé, ce pays merveilleux, commerçant, agriculteur. Et qui reste-t-il aujourd'hui qu'on exporte, sinon l'opium? Mais de tous les pays anglais, celui qui a souffert le plus, c'est l'Angleterre, à coup sûr. Ici, les banquiers riront, et les lords riront peut-être, et avec eux quelques 100 000 hommes, les vampires de l'Angleterre. Oui, mais 20 millions d'hommes pleurent, qui sont l'Angleterre elle-même. Il n'y a pas d'exemple d'un peuple si laborieux, si industrieux, qui, par les plus mortels efforts, soutenu 50 années, et acheté la misère, la faim. C'était l'opinion de l'Europe en 1789, celle que Burke professe hautement, qu'en Angleterre, la propriété était divisée plus également qu'en France. Un des membres les plus instruits de l'Assemblée constituante observe qu'à cette époque, la plupart des Anglais sont propriétaires. Exagération peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'alors les petits propriétaires étaient innombrables. C'est qu'on rencontrait partout l'honnête et médiocre cottage, l'humble, la charmante maison, qui tant de fois montrée à nos yeux dans les romans, dans les gravures, nous avait rendus tous amoureux de l'Angleterre. Ajoutez-y les touchants accessoires d'une douce petite vie morale et laborieuse, la Bible lue en famille, la vigne vierge et le rosier encadrant la partie basse, la belle et sérieuse Miss filant sur le seuil au milieu de ses petits frères, les jeux de ses beaux enfants, incomparables fleurs de carnation et de vie. Ah, il y a longues années, je vis encore quelque chose de tout cela dans les cotons les plus préservés de l'Angleterre, et j'en fus attendri jusqu'à oublier nos guerres, à me réjouir, je l'avoue, que l'invasion n'ait pas eu lieu, qu'elle ne fût pas venue troubler ce monde paisible, j'en remerciais l'océan. J'avais tort. L'invasion eût sauvé l'Angleterre même. Elle l'eût forcée tout au moins de s'arrêter, de réfléchir sur la pente terrible où elle s'est précipitée à l'aveugle. Elle l'eût forcée l'aristocratie d'accorder quelque chose au peuple, de relâcher quelque peu de sa barbare obstination. Un mot pour faire sentir ceci. La propriété foncière, tout aristocrate, comme on sait, contribué vers 1700 d'un sixième des charges publiques, d'un neuvième en 93, d'un 24e seulement de 1816 à 1842. Le riche paya de moins en moins. Le pauvre paya de plus en plus et de plus en plus travailla. À la paix, chose étrange à dire, l'aristocratie n'accorda le soulagement qu'à elle-même. Rien au peuple qui avait si héroïquement travaillé suffit par son travail mortel aux 40 milliards qu'exigea la Grande Guerre. Quel terrible impôt sur la haine, sur l'orgueil, sur une rivalité insensée. Va, John Bull, pousse la partie. Ton honneur est engagé à n'en pas démordre. Travaille, paye, double toujours ta mise, obstiné joueur. Rule, Britannia, rule. Travaille sans desserrer les dents. Rule, Britannia. 1 heure, 2 heures, 4 heures, celle du repas et de la nuit. Ajoutez à ton travail. Ajoute encore, mon ami. Ajoute ta femme et tes enfants. Et par l'emprunt, ajoute encore le travail des enfants à naître qui naîtront endettés et pauvres. Rule, Britannia. Mourez tous afin que la France meure. Ah, malheureux endurci, vous voilà bien avancé d'avoir haï et méprisé. Tout cela sur la parole de vos ennemis et des nôtres. J'ai pleuré de pesantes larmes sur les mots de nos ennemis. Et comment ne pas pleurer quand on voit ce que l'Angleterre eut de bon, son trésor moral, la famille anéantie. Je ne parle pas de ces monstrueuses babelles manufacturières où la prostitution a fini, tout étant prostituée. Je parle des pays agricoles. Quoi de plus lamentable que de rencontrer dans les champs, sur les plus riches terres du monde, ces ouvriers mendiants, qui labourent en habit noir, traînant la défroque des riches, de rencontrer sur les routes des tas d'enfants, qu'on vend et loue, qu'on transporte d'un pays à l'autre autour de moissons, pour exécuter la terre à jour fixe. Tout cela, filles et garçons, troupes immondes, misérablement mêlées dans les tombereaux. Chose étrange, la guerre à l'enfance. C'est le spectacle que présente l'Angleterre. La charge qui alla retombant des riches aux pauvres, de l'homme à la femme, retombe d'elle à l'enfant. L'enfant usé, corrompu avant d'être, ne peut vivre. Sous ce spectacle lugubre de misère et de promiscuité enfantine, il y a une sentence terrible, plus que la fin d'une société, l'extermination d'une race. Nul remède n'y fera. L'Angleterre ne voudra pas et ne pourra pas changer. La réforme électorale n'a rien fait, l'income tax n'a rien fait, et la liberté du commerce ne fera pas davantage. Les aliments baisseront de prix, mais les salaires baisseront. Comment le matériel changerait-il? L'âme n'a en rien changé. Loin que la maladie nationale, le satanique esprit d'orgueil, diminue par l'excès des mots, elle augmente. Pas un d'eux ne voudrait l'égalité. Tous sont au cœur aristocrates. Ce prodigieux endurcissement est un spectacle terrible. La richesse va toujours se concentrant en moins de mains. La diminution progressive des salaires, la cherté des vivres vont allongeant le travail, excluant l'épargne, privant le travailleur des courts moments de loisirs qui permettaient quelques cultures morales, qui pouvaient le relever, lui rouvrir la voie d'en haut, la voie vers la puissance politique et le droit à la puissance. Que signifient ces immenses et ridicules distributions de Bibles à un peuple qui ne lit plus, n'a plus le temps de lire, souvent n'en a plus la force? Sa Bible, hélas, aujourd'hui, elle est dans la liqueur corrosive qui le relève un moment, le trouble, il donne l'oubli. Lire, connaître, apprendre, 20 mots, mot Dieu, il veut ignorer. Tout l'espoir de l'aristocratie, c'est que ces millions d'hommes qui meurent, qui ne se renouvellent que par des enfants qui meurent, mourront du moins en silence, pacifiquement, sans révolte. Cette population, il est vrai, qui ne fut jamais bien militaire depuis le XVe siècle, mais qui jadis se vantait, non sans raison de sa force physique, se sent faible, exténuée, finie de cœur et de corps. Je parle ici de la tourbe proprement manufacturière. Quant aux ouvriers forts, intelligents, que l'Angleterre possède encore en grand nombre, 2 choses travaillent contre eux. Premièrement, ils ne reçoivent nulle culture, nulle lumière du dehors. Le clergé, même sur ses terres, les néglige entièrement. Les radicaux qui communiquaient avec eux il y a 10 ans en sont maintenant séparés et se rattachent par effroi au parti conservateur. Deuxièmement, ces ouvriers ne peuvent trouver aucun élan en eux-mêmes, le temps, comme je l'ai dit, manquant pour lire, réfléchir. Autre cause de décadence qui mérite d'être approfondie, la supériorité de l'Angleterre tient longtemps à ceci que les hommes de classes diverses y étaient moins spécialisés que sur le continent. Les gentlemen, pour la nourriture forte et simple, pour les exercices violents, se rapprochaient du travailleur et souvent étaient plus forts. L'autre, par sa culture biblique, par l'intérêt qu'il prenait aux affaires publiques, se rapprochait du gentleman. Dans la marine anglaise, encore aujourd'hui, vous trouvez parmi les constructeurs, les pilotes, les matelots de premier rang, vous trouvez beaucoup l'homme mixte, l'homme complet, équilibré, qui sans être un savant, comme l'ingénieur français, à des connaissances pratiques et en même temps l'énergie du travailleur. Ceci dans la marine seule et dans les ouvriers d'ordre supérieur. Mais la masse industrielle, cette masse monstrueusement nombreuse qui va toujours s'accroissant et entrer dans d'autres voies. L'homme équilibré, complet, autrefois nombreux chez ce peuple, il devient chaque jour plus rare. L'extrême division de travail a spécialisé l'ouvrier. L'a parqué dans telle ou telle étroite sphère, en a fait une chose isolée dans son action et sa capacité. Aussi impuissante en soi, si on la séparait du tout, car rouage hors de la machine. Plus d'hommes, mais des parties d'hommes, qui engrènent leur action et jouent d'accord dans l'ensemble. Cela durant, peu à peu, a créé l'excellente classe d'hommes triste à voir, parce qu'on y reconnaît tout d'abord la difformité empreinte d'une étroite spécificité de travail, c'est-à-dire l'asservissement complet de la personnalité à quelques misérables détails industriels, et de ces difformités fixées et perpétuées résultaient les races, non plus des belles et fortes races de bretons, saxons, mais races de pâles cotonniers, races de forgerons bossus, et dans les diversités de forgerons des races secondaires, tristement caractérisées. Aristote, dans sa Politique, dit en froid naturaliste qui note les signes extérieurs « L'esclave est un homme laid ». Sans doute, cet esclave antique était laid, courbé, souvent bossu sous la charge. Mais enfin, avec tout cela, il variait ses travaux, exerçait ses diverses facultés physiques, y conservait un certain équilibre, et il restait homme. Il était l'esclave d'un homme. Que dire, hélas, de celui qui, lié à telle occupation minime, la même, toujours la même, sert d'un misérable produit de manufacture et l'esclave d'une épingle, l'esclave d'un fil de coton, etc., etc. Et cette seule épingle encore, dans ses diverses parties, tête, tige, pointe, etc., combien a-t-elle d'esclaves qui, ne faisant qu'une chose, doivent rétrécir à cette mesure leur activité, leur esprit. Voilà la grande et terrible différence entre l'anglais et le français. L'anglais est une partie d'homme. Cette partie peut être parfois un ouvrier admirable, d'une utilité, d'une efficacité singulière, n'importe. C'est une partie. Quoi qu'il fasse, il est relatif. Il existe par rapport à une action commune, à une machine, à une chose. Ceci, c'est une vie de choses, et non pas une vie d'homme. L'homme, la personnalité, sauf les rapports volontaires qu'elle se donne et se choisit, c'est un absolu, un dieu. La société, loin d'être une éducation pour l'anglais, loin d'ajouter des qualités à sa nature, lui a ôté ce fond même qui porte les qualités et en est le substratum, l'intégralité de l'être. Et pour le français, au contraire, elle a fortifié l'unité fondamentale. Elle a incessamment, à travers tous nos malheurs, nos misères morales et autres, elle l'a doué, augmenté, fortifié comme homme complet. Soldat, petit propriétaire à titre divers, le paysan français s'est fait homme de plus en plus. Au moment où va commencer pour ces deux peuples la double et terrible besogne où la fatalité les pousse, le travail à mort et la guerre à mort, mon cœur avait besoin d'avance de se dire les résultats. Entrant dans ces grandes souffrances, il me fallait emporter ce viatique avec moi. Je me redirai cela le long de ce rude voyage, et j'en aurai plus de force à traverser, raconter tant de choses douloureuses. Je ne veux pas comparer ici les deux genres de travail, l'industrie, la guerre, ni calculer s'il est plus noble de verser sa sueur que son sang. Non, je ne distinguerai pas, bien combattu, bien travaillé, bravement des deux côtés. Ces deux peuples ont été grands. Je fais seulement cette remarque, et cela après tant d'événements, de sang et de larmes, cela peut-être, c'est ce qui restera dans la balance de Dieu. La France a moi haï. Et pour récompense, l'homme ici est resté homme. Je veux dire homme complet, non spécialisé, mutilé, comme est devenu l'anglais par le double effet de son génie spécificateur, exclusif, et de la division infinie du travail qui caractérise son industrie. Dans une époque de division et de spécification, l'anglais prime, il doit primer. Il est à la fois spécial et susceptible de se subordonner à une action générale. Peu associable de cœur, il est d'esprit et de main. Il prime, non pas comme homme, mais comme chose, utile, efficace, comme un excellent outil. Contre l'outil, contre la machine, l'homme est inférieur. La variété, l'équilibre général de ses facultés lui nuit, l'entrave, neutralise une partie de son action, dès qu'on l'appelle à une œuvre très spéciale pour laquelle l'outil est fait. L'outil vivant n'est pas distrait. Il va droit son chemin. Nulle rêverie, il travaille à mort. Chose admirable, un outil passionné, surexcité, surnourri, qui emploie toutes les ressources d'un excès d'alimentation et d'un excès de boisson à exécuter vivement, violemment et d'une violence continue la tâche qu'on lui impose, la pensée d'un autre. Le manufacturier et l'entrepreneur en tout genre préférera à coup sûr cet homme-machine. Que le français n'essaye pas de s'offrir en concurrence, lui il est un homme, et c'est par là qu'il déplaît. Toutes les qualités qui le rendraient considérable aux politiques, aux militaires, lui comptent ici pour défaut. Voulez-vous voir un spectacle qui vous fera entrer par les yeux ces pénibles vérités? Un spectacle cruellement instructif? Voyez-les tous les deux, l'anglais et le français, en face, à la besogne qui demande le moins des hommes spéciaux, dans ces misérables travaux de terrassement qui préparent les chemins de fer. L'anglais, mieux nourri, mieux à son affaire, peut oublier tout le reste. Il n'a qu'une idée à la fois. Au travail, il travaille fort. Au repos, il dort, ne bouge. Le dimanche, il oublie à fond. Il est absent de lui-même, enseveli dans son jean. Vous pouvez à peine les jours de fête visiter les alentours des travaux sans marcher sur un anglais. Le français, généralement moins payé, mal nourri et réparant mal ses forces, les dépense d'ailleurs à parler, à rire même quelquefois. Dans les repos, il marche encore, il agit, il joue. Au travail, parfois, il s'arrête. Il est souvent distrait, il songe. Distrait de cette poussière et livré à sa pensée. Ah, il a de quoi songer. Il remue la terre de France et remue l'histoire même. Elle dort dans la terre, cette histoire, mais elle veille toujours en lui. Comment voudriez-vous que celui-ci ne rêvât pas? Il sait trop bien, en maniant la pioche, que son père mania l'épée. Plus d'un garde encore, dans ses misérables hardes, comme souvenir paternel, la vieille épaulette de laine de Marengo ou d'Austerlitz. C'est un noble, que voulez-vous? Vous aurez beau la baisser, l'âme du pauvre Français déchu n'en reste pas moins comme un grand manoir désert que hante deux revenants, l'âme de la Révolution et l'âme de la Grande Armée. L'autre n'est pas distrait, je le crois bien. C'est un meilleur ouvrier. De quoi se souviendrait-il? Son père a bravement travaillé. Il a fait de rudes campagnes aux filatures de Manchester, aux forges de Wolverhampton. Mais avec tout son travail, avec cette vie laborieuse, méritante, productive, qu'a-t-il laissé de lui qui puisse occuper la mémoire? Nulle œuvre entière n'est sortie de ses mains qu'il puisse se rappeler lui-même. Simple rouage, ressort secondaire d'une production dont il ne connut ni l'ensemble ni le but. Il fut une partie d'homme. Il fit des parties de choses. Il est mort. A-t-il vécu? Son fils n'est pas davantage. Race à fond spécialisée depuis plusieurs générations, il travaille d'autant mieux que sa personnalité, diminuée des facultés inutiles à son métier, n'intervient presque jamais, ne le trouble guère. Ainsi l'abeille construit, ainsi chasse le chien de meute. Que une situation se présente, imprévue, de celle qui exige qu'un homme soit immédiatement homme, pense, agisse, prenne la partie, vous verrez la différence. L'anglais restera inerte, et comment agirait-il? Cela n'est pas de son métier. Tous ceux qui ont vu à l'œuvre leurs soldats et les nôtres, au combat, au campement, aux provisions, peuvent bien juger de cela. Et les leurs, cependant, sont des soldats spéciaux, pour mieux dire des ouvriers militaires, chèrement payés et nourris qui, comme ouvriers en ce genre, devraient être mieux dressés aux ouvrages de soldats qu'un soldat pris dans tout le peuple, comme est le soldat français. Le mélange de deux espèces d'hommes si différentes dans nos travaux est une chose très injuste, en ce que la spécialité excessive et rétrécie de l'anglais, son infériorité comme homme, lui compte pour supériorité. Chose absurde autant que cruelle de subordonner le français à un étranger qui sait peu ou mal notre langue, avec qui il ne peut ni s'expliquer ni se plaindre. Chose immorale de mettre un homme sobre, au moins relativement, sous la direction d'une chose abrutie de djinn. Plusieurs ne désenivrent jamais. Chose impie, trois fois impie, de voir un français, en France, sous le bâton d'un anglais. Le fils de la grande armée, sous un cerf dont le père n'a fait que du calicot ou quelque chose de moindre. C'est le plus sacré devoir de l'autorité publique d'intervenir dans ses indignités. L'intérêt, la liberté d'industrie, etc. Tous ces grands mots ne servent de rien ici. Que nous importent vos chemins de fer si nous n'allons qu'à la honte? L'étranger, disent-ils, apporte les capitaux? Mais s'il exporte l'honneur? Il y a ici bien autre chose qu'une perte matérielle. C'est une diminution de l'âme, un rapetissement du cœur, un abaissement intérieur qui ferait que, peu à peu, on ne s'alignerait plus, on estimerait tout, hors soi. On s'habituerait à se mépriser soi-même. Lourde responsabilité pour ceux qui nous mettraient dans cette route. Livrer une forteresse, un port, ce serait une grande trahison. Mais livrer l'âme de la France? Cette âme, qui en sait le prix? C'est plus qu'une âme de nation. Parmi toutes nos misères, elle est encore dans l'abattardissement de l'Europe, la force de vie qui vivifiera le reste. Le vieux midi rêve, impuissant, une liberté catholique. L'âme allemande s'est énervée dans la généralisation. L'Angleterre rétrécit dans les spécifications pratiques. L'allemand semble une formule, l'anglais un outil. Et nous pouvons dire aux Français, tu es homme encore.